Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Et nous voici de nouveau au bord du Lapic. Mais si, rappelez-vous, c'est cette petite rivière du Finistère, ce petit fleuve même, puisqu'il se jette dans la mer, dans la baie de Douarnenez, après avoir coulé dans le bassin du Porzay depuis Locronan et Caste. Le Lapic est la vedette d'un projet mené par l'établissement public d'aménagement de la baie de Douarnenez, l'EPAB, qui crée un atlas socioculturel du Lapic depuis 2023, avec le soutien de la région Bretagne. Ce projet se traduit par des collectages de souvenirs auprès des gens qui vivent ou qui ont vécu près du Lapic. Et puis des événements viennent rythmer le travail, des traversées du Lapic. Nous avons déjà suivi la traversée du 17 juin 2023. On était alors assez proche de la source. On revient au Lapic aujourd'hui, nous sommes début mai 2024, mais on a bien descendu la rivière et nous voici à Tréfintec, juste à côté de la plage de Sainte-Anne-la-Palue, sur la commune de Plonévé-Porzay. C'est Antoine Logini qui tient le micro.
Et bienvenue dans ce magnifique lieu de Tréfintec, hein. Commune annexe de Plonévé, hein. On peut dire même une vraie commune à part. Hein. Donc je suis chargé du mot d'accueil, je me présente Alain Pénovert, adjoint. Beaucoup d'entre vous ont déjà participé aux ateliers, donc le cheminement continue depuis le bourg jusqu'ici. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est l'embouchure. Pour nous, la PIC, c'est important, parce que c'est quand même... ça structure le paysage de Plonévé et il participe à sa biodiversité. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, on connaît le Lapic sur sa partie du bourg, sur les grands axes, parce qu'on passe à côté. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, on a la chance de pouvoir aller dans certains endroits dans le fond de la vallée qui sont tout simplement magnifiques. Surtout un peu plus loin, là, même pas 500 mètres, vous avez comme des falaises et des bois qui abritent du chevreuil, du sanglier. Il y a des chasseurs ici qui connaissent très très bien la vallée, donc voilà.
Comme lors de la précédente traversée du Lapic, plusieurs approches vont se succéder au cours de la balade. Il y aura de l'histoire, une petite marche par la plage, le chant avec la chorale, la qualité de l'eau avec l'EPAB et un atelier pour parler au Lapic de son avenir en toute convivialité. Alors pour l'histoire, on s'en remet à Patrice Trétout, historien local, auteur de Tréfintec passionnément.
En 2018-2019, moi j'ai perdu mes parents. Et c'est important après de se reconstruire justement après des décès. Donc j'ai fait un petit peu toute la généalogie de ma famille, de connaître un petit peu de toutes les origines. Et connaître l'histoire, c'est souvent on récupère un tas de photos, on ne sait pas qui est dessus. Donc c'est de faire la démarche auprès des cousins, de toute la famille, de pouvoir mettre des noms. Et puis j'avais mis dans ce livret qui était plus pour la famille, je me suis dit pourquoi pas faire un jour un livret sur Tréfintec, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il y a une trace écrite sur le village, l'importance de ce village. Et du coup, après avoir fait ce livre, il y avait un petit peu de sous avec le livre, donc c'était de créer une association. Donc c'est l'association Tréfintec 1856 qui est née le 3 septembre 2022.
Patrice Trétout a grandi à Tréfintec, il s'est baigné dans le Lapic et il y a vécu de folles épopées en bateau pneumatique. Donc, il a depuis remonté le temps, bien au-delà de son enfance, et l'a même amené avec lui des documents.
Tréfintec a-t-il été un port, justement, dans l'histoire? On dit en 1757, on chargeait à Tréfintec des navires portant 150 cordes de bois. Donc, c'était jusqu'à l'Estrande, je ne sais pas jusqu'où a pu avoir la navigation. Et il y a un bateau de 60 tonneaux, donc assez important, le Plymouth, du port anglais de Dartmouth, qui s'échoue devant Tréfintec le 25 décembre 1777. Et il y a un historien qui est très connu, qui en 1794-1795, qui s'appelle Jacques Cambry, qui est de Lorient, qui écrit « À Tréfintec coule une rivière dans laquelle il entre des chaloupes et des galères pour se charger de bois dans la belle saison ». Et l'abbé Pouchous, il nous dit qu'entre Tréfintec et Kergoswen, il y a ce qu'on appelle deux tours rondes dans lesquelles on allumait des feux nocturnes, justement, pour servir de phare aux navigateurs. Et il parle de plusieurs petits ports sur la paroisse, puisqu'on parle jusqu'à la Révolution, on ne parle pas de commune, hein, bien sûr, on parle de paroisse, à Trezmaloen, Le Riz et à d'autres endroits de la commune, de la paroisse, pardon. Donc 1869, il y a un projet de débarcadère à Tréfintec. Pourquoi il y a ce projet-là? Parce qu'il permet aux habitants, justement, de se fournir en sable calcaire qui se servait à l'époque pour les constructions. Et malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Il a été évoqué plusieurs fois justement au Conseil Général, et parce qu'il y avait une pétition de la commune de Plonay-Porzay, mais ça n'a jamais eu lieu. Et il y a eu beaucoup de bateaux qui ont échoué. Le canot Étoile du Nord, qui a culbuté par une lame en essayant l'entrée de la rivière de l'Anse de Trematec. Il y a 6 hommes qui sont justement disparus. Trématec, c'est un village important aussi parce que jusqu'en la Révolution française, il y a ce qu'on appelle aussi la milice garde-côte. C'est-à-dire que chaque paroisse est tenue justement d'apporter une population qui vient garder justement parce qu'on craint des invasions du coup. Et je vous lis, hein, l'ordonnance du roi Louis XV du 27 août 1759 définit le nombre de personnes que chaque commune doit mettre à disposition de la milice garde-côte. Et pour Plonay-Porzay, il fallait 30 personnes, donc Plogonnec 50 personnes, Locronan 20, Douarnenez 36, Ploévin 10, etc. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait des habitations aussi de douaniers. Je ne sais pas si vous voyez la maison de Marie-Louise Joncourt, qui se trouve en plein milieu d'un champ. C'est une habitation qui se trouve tout en haut du village. On se demande pourquoi il y a une habitation. Bah, c'est à l'origine, c'est là que se trouvaient les habitations des douaniers. Hein. Et pour aller plus loin de cette importance de ce village-là, c'est l'histoire de l'époque romaine. Parce qu'il y a des traces justement de cette époque romaine sur la commune de Plonay-Porzay. La mode du 19e siècle, c'était de justement, c'est là qu'est née la Société archéologique du Finistère, c'était de faire des recherches archéologiques. Et donc bien sûr, les Romains, ils arrivent en Armorique en moins 56. Et on trouve 6 débris de villas gallo-romaines. Donc bien sûr, à Trévintec, il y a à Tréguer, à Kervel, il y a à Camézen, et Carléol, c'est pas loin de la mer aussi, Carigelou, sur Carlaz. Et par contre, plus improbable, mais il faudrait que je reste la chose, c'est d'après l'écrit, c'est 1921, le village disparu de Cariado, donc on connaît avec un I, donc il y a bien sûr le lieu dit Cariado qui est sur Plonay-Porzay. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé à Trévintec? Alors les découvertes se sont faites, donc il y a la pointe de Beghentigard, et juste devant la pointe de Beghentigard, il y a une petite plaine, justement, et c'est là qu'ont été faites les découvertes. On trouve des piliers d'hypocaustes. Alors qu'est-ce que c'est des hypocaustes? C'est un système de chauffage par le sol, déjà connu par les Grecs, et qui a été développé justement par les Romains. On trouve des substructions, donc c'est les bases de construction servant pour une construction. On trouve des tuiles à forme demi-cylindrique et on trouve des cuves de salaison. Donc l'importance de ce positionnement par rapport à la mer, des cuves de salaison de moins d'1,20 m. Et pour, bien sûr, bien entendu, pour la salaison du poisson, on trouve une pièce de monnaie à l'effigie de Faustine la Jeune, ça a été une impératrice romaine. Et de l'autre côté, à Camézan, ça a été plus tard avec le baron Maurice Alna du Fretet, qui était président de la Société archéologique du Finistère. Il trouve du côté de Camézan, c'est vers 1896, 11 cuves de salaison. Elles ont été trouvées du côté des... vous continuez, c'est au niveau des villas. Et on a trouvé aussi un bronze à l'effigie de l'empereur romain Constantin, c'est un empereur du 4e siècle. C'est ce qu'on a appelé l'allée verte, c'est le chemin que connaissaient les gallo-romains et qui vient du Metz, qui vient jusqu'à Trévintec pour envoyer du matériel à transporter justement par bateau.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme de l'eau vive.
Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à...
Et donc après la présentation de l'histoire de Trévintec, Le groupe d'une cinquantaine de personnes se dirige vers le grand hôtel de la plage et donc dans l'anse de Trefentec. Hein, on marche sur le sable jusqu'à rejoindre l'embouchure.
Les traversées du Lapic proposées par l'EPAB, établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez, sont aussi l'occasion de s'informer sur les mesures de qualité de l'eau. Celle qui est chargée du suivi du Lapic, c'est Guy Maître-Preux. Elle a expliqué la notion de bassin versant. Toute goutte de pluie qui tombe dans le bassin finit dans la baie, en passant parfois par les cours d'eau comme le Lapic. Quant à la qualité de l'eau, elle répond à des critères liés à la biodiversité des espèces qui vivent dans la rivière, à des critères physico-chimiques et aussi à des paramètres morphologiques comme l'écoulement des eaux.
On a parlé des moulins. Un moulin avec un bief, ça va venir faire un obstacle à l'écoulement de l'eau et au déplacement des espèces. Alors, il n'y a pas que les moulins, hein, y a les barrages, etc. Mais c'est vrai que sur le Lapic, c'était vraiment dû au bief. Le souci étant que beaucoup d'espèces, notamment de poissons et les anguilles également, ont besoin de pouvoir circuler d'une partie à l'autre de la rivière. Une rivière, c'est pas continu, elle n'est pas toujours pareille. On a des petits bras où le courant va être un peu plus faible, un peu plus à l'abri, peut-être avec un peu plus d'ombre, etc. Ces petits bras sont très importants pour le développement des juvéniles. Ils sont un petit peu à l'abri, si vous voulez, avant d'être plongés dans le grand bain où ils risqueraient de se faire manger. Il y a beaucoup d'endroits en fait où il suffit tout simplement de mettre une passe à poisson, ce qui permet de garder le bief mais quand même de maintenir cette continuité écologique. Entre 2015 et 2020, du coup, l'EPAB a mené beaucoup de travaux de restauration sur cette continuité écologique et maintenant on n'est plus déclassé sur ce paramètre sur le Lapic en tout cas. Il y a eu un deuxième état des lieux qui a été réalisé en 2019, donc qui va acter le fait que la restauration écologique de la continuité écologique a été réalisée sur le Lapic. Il y a juste un paramètre qui pêche un peu, c'est ce qu'on appelle l'indice biologique diatomé, c'est des microalgues. Où on va avoir des microalgues, des espèces de microalgues qui sont plus tolérantes, plus résistantes à une eau polluée. Et on ne trouve plus les microalgues qui, elles, sont plutôt sensibles. Donc c'est un peu un indicateur du fait que tout ne va pas bien d'un point de vue qualité d'eau sur le Lapic, comme sur à peu près tous les cours d'eau en France. Hein. Au niveau microalgues, c'est vraiment les espèces les plus sensibles, les espèces qui sont témoins en fait de la pollution de nos cours d'eau. Pour revenir un peu plus précisément sur le suivi que fait l'EPAB, vous avez peut-être vu, je passe à peu près tous les mercredis ici, donc si vous voyez un camion, enfin une camionnette garée au niveau du moulin, c'est moi. Puisque donc je viens faire des prélèvements toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ça dépend de la période, pour analyser ma majorité les nitrates, voilà, dans ce contexte d'algues vertes. Puisqu'on a une baie, de par le simple fait qu'elle soit une baie en fait, une baie qui est fermée, qui est très plate, où l'eau va pouvoir se réchauffer facilement, où la lumière peut pénétrer facilement également dans l'eau, en fait toutes les conditions sont réunies pour que les algues puissent se développer. Et le seul facteur qui va venir limiter leur développement, c'est la quantité de nourriture qu'on va leur envoyer. Quelle est la quantité de nutriments disponibles? Et quand je dis leur envoyer, parce que les nutriments, majoritairement, ils arrivent de la terre. Ils arrivent pas directement de l'océan. Et c'est pour ça qu'on va suivre nos cours d'eau, en fait. D'un point de vue de l'Europe, voilà, d'un point de vue de l'Agence de l'eau, le Lapic, il est en bon état. Si on regarde les nitrates, le seuil il est à 50 mg d'azote par litre, de nitrate par litre, on est en bon état. Mais le fait d'avoir cette masse d'eau côtière, cette baie de Douarnenez qui est sensible, le SAGE va placer des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux. Et l'objectif du SAGE, c'est d'atteindre les 15 mg de nitrate par litre en moyenne sur la période estivale, entre mai et septembre, à l'horizon 2027. Donc, on est parti de 45 à peu près, 45 mg par litre dans les années 2000. Il faut savoir qu'avant même la création de l'EPAB, en fait, le Lapic il était suivi par la communauté de communes. Donc l'EPAB a repris ensuite ce suivi, mais ça permet d'avoir une chronique de données qui est vraiment très très longue, très importante, et ça permet vraiment de voir cette évolution des concentrations. Comme je vous disais, on est parti de 45 dans les années 2000. La dernière campagne, l'année qui s'est écoulée, la moyenne est à 22. Donc les 15 mg, ils approchent, ils ne sont pas très loin, on espère. Donc on a une descente qui est joliment linéaire. tout en gardant à l'esprit qu'en fait, il y a toujours un temps de réponse sur un cours d'eau, sur un milieu naturel. Tout simplement parce que l'eau qu'on va trouver dans la rivière, certes, elle vient majoritairement de l'eau de pluie, mais on va avoir aussi une contribution des eaux souterraines. C'est pour ça que l'EPAP va aussi suivre les eaux souterraines, les concentrations nitrates dans l'eau souterraine, puisque notamment en l'été, l'eau va surtout venir des réserves qu'on a sous nos pieds. C'est comme ça, c'est qu'une fois qu'une pollution a atteint la nappe phréatique, la dépollution est beaucoup plus lente, puisqu'il n'y a plus toute cette composante biologique, les algues, etc., qui pourraient venir consommer ces nitrates. J'ai trois points sur le bassin versant du Lapic. Il y a la fontaine du Run, un autre sur une source un petit peu plus loin et une source beaucoup plus en amont du côté de l'Ocronan. Et on voit bien la différence en fait. L'Ocronan qui est un espace boisé très en amont sur le bassin versant. On est aux alentours de 6-8 mg par litre. C'est une source qui a été préservée. Alors que si on est un peu plus en aval, on a le témoin des contaminations passées. Alors, c'est des contaminations agricoles, mais aussi des contaminations qui sont issues de l'assainissement collectif, non collectif. On a des sources qui sont à 30, voire 50 mg d'azote par litre. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut continuer à travailler en surface pour éviter de venir contaminer encore plus nos eaux souterraines et pouvoir justement continuer à faire descendre cette concentration en nitrates et espérer diminuer la quantité d'algues vertes qu'on va trouver dans la baie de Harnenay par la suite. On a une chronique, on va dire, qui est suffisamment importante pour être exploitée depuis les années 2000. En fait, avant les années 2000, avant 99, il y avait déjà des premières analyses qui étaient réalisées, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. Voilà, c'était 2-3 fois par an, ce qui ne permet pas de calculer une moyenne fiable, en fait. Mais l'enjeu avait déjà été identifié par les communes et par les communautés de communes.
D'ailleurs, on va dire que ça a démarré en 95, à peu près, on a les premiers.
Et après, même, j'ai retrouvé historiquement, il y a même certains particuliers qui, de manière citoyenne, en fait, avaient demandé des analyses. Donc le suivi qui est réalisé par l'EPAP, bien sûr, il évolue en fonction des demandes, en fonction du contexte, de l'actualité. Donc les nitrates, ça reste une thématique de fond. On va travailler aussi beaucoup sur les pesticides, suivi pesticides. Là, on a un protocole qui volontairement va venir un peu noircir la situation parce qu'on va chercher la pire situation possible quand il pleut beaucoup et qu'on va avoir beaucoup d'érosion du sol. Voilà, par rapport à d'autres suivis, par exemple, qui peuvent être réalisés par l'Agence de l'eau, par l'ARS, qui sont plus, on va dire, calendaires, qui vont plus donner une vision habituelle, moyenne, de ce qui peut se passer sur le cours d'eau. Nous, à l'EPAP, on cherche la pire situation possible. Mais quand on cherche, on trouve, évidemment. Donc, sans grande surprise, mais comme sur tous les autres cours d'eau en fait, qu'on va suivre, on va trouver beaucoup d'herbicides, des herbicides autorisés par la réglementation. Surtout, voilà, en été, avant la levée des semences et en post-levée également. Et puis tout ce qu'on va appeler les métabolites, donc les produits de dégradation de ces molécules, celles-ci on va les trouver toute l'année à peu près à des concentrations stables. Donc c'est vraiment ces deux familles de pesticides. On a vraiment la substance active, la molécule mère qui va être utilisée pour traiter les champs, qu'on va retrouver de manière très ponctuelle. Et là, pour lesquels il est possible de réaliser des aménagements pour éviter qu'on les retrouve dans les cours d'eau. Les programmes Bresse-Bocage, par exemple, qui consistent à remettre des talus, à remettre des haies là où elles ont été arasées dans le passé, de manière à venir protéger le cours d'eau, à éviter que le sol et donc les pesticides qui sont fixés dessus n'arrivent dans le cours d'eau. Tout ce qui va être remettre des bandes enherbées également. Donc c'est aussi une des missions de l'EPAP. Par contre, pour les métabolites, étant donné que ce sont des molécules qu'on va trouver dissoutes dans l'eau, là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire. On ne peut pas les empêcher de rejoindre l'eau parce qu'elles y sont déjà. À part réduire notre consommation de pesticides. Alors on parle de pesticides, mais en fait, parce qu'on est sur un territoire qui est majoritairement agricole, mais il faut se dire aussi que c'est la même chose pour des résidus de médicaments. Typiquement du doliprane, qu'on prend pense un peu tous de manière régulière, on va trouver aussi beaucoup de résidus de médicaments dans les eaux. On n'a pas de suivi ciblé sur les médicaments actuellement, mais c'est l'une des volontés de l'EPAP de développer ce suivi également. Alida parlait des actions de reméandrage qu'il y avait pu avoir à Sainte-Anne, donc vraiment juste au-dessus de l'hôtel qui est là, où le cours d'eau il était en ligne droite. Donc c'est mon collègue Olivier qui est chargé des milieux naturels qui justement est venu remettre des méandres. L'idée c'est de ralentir au maximum la vitesse de l'eau de manière à pouvoir soutenir les capacités épuratoires. Pour que les plantes, tout simplement, aient le temps de venir traiter la charge de pollution qu'on lui envoie. Ça peut être des nitrates, ça peut être des bactéries également. Et donc sur ces travaux de restauration, il y a un suivi avant-après qui est fait quand c'est possible. Avant les travaux, quelle est typiquement sur les nitrates, parce que c'est facile à analyser, quelle est la concentration en nitrates qu'on trouvait en amont et en aval avant les travaux, qu'est-ce qu'on trouve après ? Et on regarde en fait les abattements, combien on va gagner entre. Sur les travaux de Sainte-Anne, on va gagner de 2 à 3 mg par litre. Sur, je ne sais pas, c'est quelques centaines de mètres, même pas, qui ont été reméandrés. C'est efficace. Tout ce qui va être talus, haies, etc., va surtout lutter contre le phénomène d'érosion du sol, où là, ça sera plutôt sur des paramètres comme le phosphore, comme les molécules actives de phytosanitaires. Toutes ces molécules qu'on va retrouver plutôt fixées sur les particules de sol. Et donc là, en fait, avec les talus, on les empêche d'arriver, physiquement, on les empêche d'arriver au cours d'eau. Alors, les fossés...
Moi, je ne suis pas pour curer les fossés.
Bah, moi non plus, mais c'est pour ça que
je suis pour arraser les bas-côtés. Oui. Et par contre, il faut laisser l'eau après...
S'infiltrer.
Exactement.
Ça fait tampon, ça fait... Ouais. Et donc, bien souvent, les gens disent « Ah ben non, les fossés ne sont pas curés, c'est pas... »
C'est ça, c'est pour ça que...
Ça ne fait pas propre, en fait.
Mais aujourd'hui, c'est toute une culture qu'il faut reprendre.
Il y a tout ce côté aussi, ce qu'on appelle de fossé circulant, où en fait, vu qu'ici on est quand même sur un territoire qui est très très humide, où on va avoir beaucoup de remontées de nappes, c'est très très simple quand on a un fossé de juste le prolonger un petit peu et qu'il rejoigne le cours d'eau. Et en fait, non seulement je vais venir jouer sur la qualité de l'eau, puisque le milieu n'a pas le temps de s'épurer, mais ça va venir aussi jouer sur la quantité d'eau, parce que l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer. C'est-à-dire que toute l'eau qui va arriver pendant l'hiver, on ne va pas venir recharger les nappes avec, elles vont venir directement elles vont rejoindre la mer. Ce qui va venir en fait diminuer les réserves en eau qui seront disponibles pour l'été. Donc c'est pas que de la qualité de l'eau aussi, ça va venir aussi jouer sur la quantité d'eau qui est disponible quand il y en a besoin. Il y a besoin d'un gros changement des mentalités, ça ne peut passer que par la pédagogie et la sensibilisation.
Ouais. Et montrer qu'est-ce qu'on fait, et donc de là il y a des résultats derrière, et donc ça permet aux gens de comprendre.
Et d'expliquer pourquoi on le fait. Ouais. Voilà. Et puis ce reméandrage, au-delà encore une fois de la qualité de l'eau, ça va venir recréer des nouveaux milieux pour avoir une plus grande diversité d'espèces également. C'est vrai qu'on est plutôt axé sur le volet qualité de l'eau, mais une action bénéfique va être bénéfique sur plusieurs autres points. Je rajouterai juste un dernier mot, c'est que toutes les données qui sont produites par l'EPAB sont des données publiques, qui sont accessibles à la fois sur les plateformes nationales comme NIAID, mais aussi en interne. N'hésitez pas à m'envoyer même un petit mail si vous avez besoin de données. Elles sont à disposition.
La mer qu'on voit danser le long des golfes
clairs a des reflets d'argent la mer. Changeons sous la pluie. La mer au ciel d'été, au fond, ces blancs moutons.
On continue la balade là où le Lapic n'est plus vraiment une rivière. Il devient de plus en plus la mer, jusqu'à la pointe de Tréfintec et Bègue-Antigarde.
Ici, c'est un autre cours d'eau, c'est le Sainte-Anne qui arrive ici. Les deux se rejoignent et se jettent ici dans la mer. Voilà. Et on a souvent le phoque qui est là aussi, mais plutôt à la limite entre l'eau salée et l'eau douce. Ils récupèrent tous les poissons qui arrivent de la rivière et après, ils se reposent un peu sur les rochers.
La traversée du Lapic se termine au fond de l'Anse de Tréfintec par l'atelier La rivière au souhait, proposé par la géographe Claire Vifustec, qui assure l'animation de ces balades.
À une dernière activité qu'on a intitulée La rivière au souhait. En fait, dans un contexte de en ce moment, et puis bon, ça a commencé il y a un moment, mais les rivières, il y a beaucoup de gens qui ont poussé pour qu'il y ait une reconnaissance d'un statut juridique des rivières, c'est-à-dire que des humains puissent saisir la justice au nom des rivières. Il y a notamment, alors je reprends mes notes pour prononcer correctement, mais en 2017, en Nouvelle-Zélande, c'était la première reconnaissance d'une personnalité juridique, du Wanganui. Donc c'est l'idée de dire que les rivières, elles ne peuvent pas se défendre toutes seules, et donc il faudrait leur accorder une personnalité juridique, qu'elles existent en soi, et qu'elles puissent se défendre par rapport, par exemple, à des attaques, des pollutions, etc. Donc on est un peu parti de cette idée en se disant, bah là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le LAPIC ? Comment on pourrait réfléchir à ce qu'on souhaiterait au LAPIC pour le futur ? Donc on s'est dit, voilà, on va prendre le LAPIC comme une entité à part entière, on va essayer de lui parler, hein, entre guillemets. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on souhaiterait pour le LAPIC dans 5, 10, 15 ans. Donc là, l'idée, ça va être que vous réfléchissiez à un vœu, un peu comme si on était au mois de janvier et que vous écriviez à votre grande-tante, à votre grand-père, à votre fils, pour lui exposer vos souhaits pour les années à venir.
C'était quoi votre souhait ?
Un chemin tout au long du LAPIC pour pouvoir s'y balader, faire des randonnées et découvrir les moulins et l'environnement.
Que l'eau coule toujours et qu'il ne disparaisse pas.
Super, merci. C'est très beau ces gouttes. Un arbre, c'est sur le cours du LAPIC, il y a des gouttes d'eau avec des souhaits pour le LAPIC. Vous en avez écrit ?
Oui.
Et dites-moi, vous voulez me le dire ?
C'est celui-là.
De ne pas
être pollué par les humains.
Et vous, c'est quoi votre goutte d'eau ?
Moi, le mien, c'est ici. Ah, moi, c'est une grande idée. Hein. Que le LAPIC résiste à l'avidité des hommes.
Pour bien comprendre le LAPIC, il faudrait des panneaux explicatifs dans Plonévé-Porzé. Parce
Merci.
Que ça fait moins de 2 ans que je suis là et j'avais jamais entendu parler du LAPIC.
Je souhaite au LAPIC de rester l'habitat des animaux.
Merci, c'est beau.
Moi, je voudrais qu'il y ait plus d'arbres plantés au bord du LAPIC et sur la commune.
Le projet d'atlas socioculturel du LAPIC mené par l'établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez se poursuit encore jusqu'à la fin de l'année 2024 avec traversée, causerie et cartographie sensible de la rivière. Merci à Antoine Legini pour la prise de son et à toutes les actrices et acteurs de l'atlas socioculturel du LAPIC.
C'était Ribine, à retrouver sur radioévasion.net ou transistor.bzh.